VOA Afrique, les infos. À Washington.
Avec vous, Henri Francisque, midi à Bamako, 13h à Yaoundé. Bienvenue à notre journal. Au Mali, poursuivre du dépouillement du vote au second tour de la présidentielle dimanche. Et toujours pas de résultat officiel. Mais le candidat de l'opposition, Soumaïla Cissé, rejette d'ores et déjà les chiffres que pourraient communiquer les autorités sur le duel qu'il a opposé dimanche dernier au président sortant Ibrahim Boubacar Keïta. Monsieur Cissé a dénoncé au quartier général de son parti hier à Bamako ce qu'il a qualifié de fraude massive et de bourrage des urnes. Et il a appelé le pays à se lever. Pour sa part, le ministre de la Sécurité a fait le point sur la sécurisation du vote. Les précisions du correspondant de VOA Afrique à Bamako, Kassim Traoré.
C'est un ministre de la Sécurité et de la Protection civile en tenue militaire avec ses galons de général de brigade qui s'est entretenu avec la presse pour faire le bilan de la sécurisation du vote de dimanche dernier. Général Salif Traoré.
Nous étions à 871 la dernière fois et cette fois-ci, nous sommes à 490 bureaux qui n'ont pas pu ouvrir. Malheureusement, encore une fois, c'est la région du Mopti arrive en tête avec environ 440 bureaux qui n'ont pas pu ouvrir. Et sur les 440, vous avez au minimum 100 bureaux qui n'ont pas pu ouvrir pour cause d'inaccessibilité.
Les candidats de l'opposition Soumaïla Cissé rejettent à l'avance les résultats, appellent la population à se lever. Selon les données à notre disposition, nous sommes largement en avance sur le président Ibeka, déclare Soumaïla Cissé. Il condamne aussi le sabotage de leur base de données par les services techniques de l'État. Soumaïla Cissé n'a pas aussi mâché ses mots face à l'interpellation de quatre éléments de sa cellule de communication. Les quatre, après 2 heures d'interrogatoire au niveau d'un commissariat de Bamako, ont été relâchés, mais jusqu'à présent il y a un qui est introuvable. Face à cette situation, les candidats Ibeka et ses partisans n'ont pas voulu se prononcer. Ils préfèrent attendre les chiffres officiels qui seront proclamés par l'administration territoriale. Bamako, Kassim Traoré, VOA Afrique.
Il n'y a pas eu affluence au bureau de vote dimanche dernier. Les explications du professeur Issan Diaye à Bamako au micro d'Idriss Fall.
Ce n'est pas une surprise. D'abord, c'est la conséquence logique d'une chute de popularité de l'ensemble des acteurs politiques. Les Maliens avaient d'importantes attentes par rapport à la démocratie au sortir de la chute de la dictature. Mais au fil des années, l'espoir s'est amenuisé et la confiance aussi. La gestion des dernières années d'Ibeka aussi a beaucoup contribué à discréditer la classe politique. Et enfin, ces deux acteurs-là qui sont au second tour sont présents sur la scène politique depuis plus de 25 ans. Les Maliens les connaissent suffisamment et n'attendent pas grand-chose de ces deux hommes-là. Les estimations parlent de 22%, mais ce n'est pas les chiffres officiels. Mais on est sûr que de toutes les façons, on n'atteindra pas la barre des 30%. Ça veut dire simplement que le système démocratique malien, tel qu'il a été pratiqué depuis plus de 2 décennies maintenant, n'a pas donné les fruits escomptés. Faut-il revoir le modèle? Faut-il changer les hommes? Ou faut-il faire les deux en même temps? La question reste posée. On assiste à une sorte de fin de cycle. La démocratie qui est montée des années 91 est en train de vraiment s'effondrer. Il y a un renouvellement qui se dessine, qu'il va falloir traduire en acte politique. Et ce n'est pas évident.
Le professeur Issa Ndiaye au Mali. En RDC, l'opposition se mobilise pour le retour au pays de l'opposant Moïse Katumbi. Sa plateforme électorale, Ensemble pour le changement, annonce des manifestations publiques dans les jours qui viennent et 5 candidats de l'opposition à la présidentielle du 23 décembre prochain ont signé un communiqué conjoint appelant notamment le gouvernement à autoriser le retour immédiat de Moïse Katumbi en RDC et sa participation aux élections. Les détails avec Thierry Kamboundi de Top Congo FM, notre station partenaire à Kinshasa.
Des manifestations publiques synchronisées sur toute l'étendue de la République dans le but d'obtenir le retour de Moïse Katumbi et sa participation aux élections du 23 décembre 2018. C'est le mot d'ordre lancé lundi à Kinshasa par la plateforme Ensemble pour le changement. Délice Sangra, son secrétaire général, affirme que des marches sont prévues dans toutes les provinces pour obtenir que les élections soient véritablement démocratiques, libres, transparente et surtout inclusive. Un appel réitéré par quelques candidats de l'opposition à la présidentielle. Jean-Pierre Bemba, Félix Tshisekedi, Vital Kamerhe, Freddy Matungulu et Martin Fayulu ont dans un communiqué conjoint signé lundi soir, je cite, fermement condamné la décision prise par le gouvernement d'interdire d'autorité à Moïse Katumbi de rentrer en RDC, le contraignant ainsi à l'exil et l'empêchant de ce fait de déposer sa candidature à l'élection présidentielle. Fin de citation. Ils exigent son retour immédiat au pays. Kinshasa, Thierry Kamboudi de Top Congo FM pour VOA Afrique.
RDC toujours, les ex-rebelles du M23 appellent à des élections crédibles après le retrait du président Joseph Kabila de la course à la magistrature suprême. Les précisions d'Abdourahman Dia.
Les ex-rebelles du M23, qui avaient été défaits dans l'est du pays, affirment dans un communiqué être physiquement présents sur le territoire national congolais depuis le 14 janvier 2017. Ils disent aussi ne pas répondre aux multiples provocations de l'armée. Cependant, cette attitude d'abstention ne sera maintenue que si et seulement si le processus électoral actuel se révèle plus inclusif, transparent et libre de manière à garantir toute la confiance des électeurs, prévient le M23.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
Au Cameroun, les autorités affirment avoir arrêté 7 soldats soupçonnés d'avoir exécuté des femmes et des enfants en 2016 dans la lutte contre le groupe djihadiste Boko Haram. Pour Amnesty International, c'est un pas dans la bonne direction, mais l'Association de défense des droits de l'homme basée à Londres demande des enquêtes plus approfondies sur les exécutions extrajudiciaires commises par les soldats camerounais. Un reportage de Moki Edwin Kinzeka à Yaoundé, rendu par Raïssa Girondin.
Les militants des droits de l'homme ont salué l'arrestation de soldats camerounais accusés d'avoir tué des civils dans leur lutte contre Boko Haram. Dans un communiqué sur Twitter, Amnesty International décrit les images de cette vidéo comme choquantes. Elles montrent des hommes armés qui tirent avec des armes automatiques sur des personnes face contre terre ou assises contre un mur. Amnesty demande une enquête immédiate, approfondie et impartial. Hilaria Lécrossier, chercheuse à Amnesty International dans la région du lac Tchad.
The opening of investigation and arrests announced by the Cameroonian Minister of Communication.
L'ouverture d'enquête et l'arrestation de soldats annoncés par le ministre camerounais de la communication sont une première étape que nous saluons. Toutefois, si les autorités ne veulent pas prendre ce problème à la légère, nous leur demandons de prendre en compte l'ensemble des abus systématiques perpétrés par l'armée camerounaise.
Issa Chiroma, porte-parole du gouvernement, assure que 7 soldats ont été arrêtés la semaine dernière pour l'exécution de 2 femmes et 2 enfants accusés de soutenir les djihadistes nigérians.
Au terme des investigations telles qu'instruites par le chef de l'État, 7 personnels de nos forces de défense et de sécurité ont été arrêtés et déférés aux tribunaux de compétence. C'est une infime minorité de quelques militaires égarés. Il appartient une fois de plus à la justice d'établir leur culpabilité. Il y a eu un faisceau de présomption d'implication de ces 7 personnels, mais que ce personnel jouissait naturellement de la présomption d'innocence.
Ces arrestations font suite à la publication sur les réseaux sociaux d'une nouvelle vidéo montrant des hommes en armes et portant l'uniforme de l'armée exécuter une dizaine de personnes désarmées et habillées en civil. Amnesty International dit avoir analysé cette vidéo qui corrobore de précédents témoignages d'exécutions extrajudiciaires dans le village d'Ashigashia, dans l'extrême nord du pays. Hilaria Legrossi, chercheuse à Amnesty International, affirme que ce massacre a eu lieu en janvier 2015.
Amnesty
International a déjà montré que ces crimes horribles ne sont que le sommet de l'iceberg et cachent mal les violations systématiques commises par les forces de sécurité camerounaises dans leur lutte contre Boko Haram.
De son côté, le ministre Issa Chiroma Bakari assure que sans enquête, il ne reconnaît pas cette seconde vidéo. Que toute accusation contre les forces de sécurité fait l'objet d'une enquête sérieuse, car selon lui, le président Paul Biya n'accepte pas que quelques brebis galeuses, quelques soldats égarés puissent, par leur comportement inacceptable, porter atteinte à l'honneur et la dignité de l'armée camerounaise.
Et pour terminer, au Burundi, un activiste a été condamné lundi à 5 ans de prison. Nestor Nibitanga est accusé d'avoir produit des rapports sur les violations des droits de l'homme au Burundi pour le compte d'une organisation interdite par le pouvoir. L'avocat de M. Nibitanga, maître Fabien Segatroa, a confirmé cette condamnation à l'AFP tout en expliquant que son client collaborait en fait depuis 3 ans avec le réseau national burundais des organisations des droits de l'homme, toujours autorisé, et qu'à ce titre, il n'aurait pas dû être condamné. Plus d'infos sur notre site internet voafrique.com. Vous pouvez également nous joindre sur notre page Facebook.